J'ai eu un long coup de téléphone de Valérie Turcot. Oui, c'est bien. Non. Non, parfois on se voit sur l'appareil, là. Bon, Dieu soit loué. On va commencer. Il y aura quelques messages. Ah, je retrouve ma Bible, voilà, et mes notes. Dieu soit loué. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Bonjour mes amis. Bonjour Annette. Bonjour à vous les amis. Donc, la fête de Pâques s'est bien passée. Nous n'étions pas super nombreux au culte, c'est clair. Il y en a qui partent en vacances et c'est normal. Enfin, c'est normal jusque tant qu'on peut aller en vacances. Nous étions 18 au culte. Nous aurions pu être 28, 30, mais voilà. C'est comme ça. Il y a le Seigneur, de toute manière. Et donc, nous avons fait une réunion biblique autour de textes mercredi passé, puis ensuite jeudi, ensuite vendredi, ensuite samedi, et puis il y a eu le culte, qui était présidé par notre frère Jacques-Pierre, le Saint Jean Lesson-Guillon. C'était une bénédiction de voir notre frère Jacques présider, en ayant pesé tous ses mots, en ayant tout médité et en ayant préparé, collaboré pour tout ça avec Bénédicte et Noémie, nos deux filles, pour les montages audiovisuels, pour les chants, etc. Dimanche prochain, ce sera notre frère Jean-Louis Malice et qui bénéficiera de la collaboration de Vincent pour l'informatique, qui est plus efficace, plus rapide, et de nos trois filles. Voilà, c'est quelque chose de beau de voir qu'on peut collaborer ensemble et ça me permet de voir l'esprit tranquille pour repartir à l'église de Champigny, sur Marne, de Angers, de Limoges et de Bertrimoutier dans les Vosges. Donc aujourd'hui, je vais reprendre le message que j'ai donné hier en faisant quelques petites différences, quelques approfondissements. J'ai passé mon temps quand même, un petit peu de temps à remettre tout en ordre et donc j'en viendrai à cela. Avant, je voudrais vous donner quelques nouvelles de... Vous savez qu'on fait une lettre de nouvelles quand on est missionnaire, on vit de l'aide des autres chrétiens, des autres églises. Et ça, c'est clair que c'est une grande grâce. C'est très difficile à supporter quand on a été très autonome de caractère et qu'on a été indépendant. J'avais une entreprise. Bon, ce qu'il y a, c'est que je trouvais que c'était un grand bonheur de dépendre de Christ. Après avoir fait le cap avoir fait le choix, un très grand bonheur. Mais ça a été très dur au début. D'abord parce que nous étions catholiques d'origine, j'avais été prêtre ouvrier d'origine, etc. Des quolibets régnaient sur moi et donc c'était pas facile tout ça à mettre en ordre. Et un jour le Seigneur a ouvert les cœurs pour qu'on puisse être aidés et depuis l'an 2000 nous sommes aidés efficacement. Donc je vous souhaite, je vous lis la lettre de nouvelles, je souhaite une bonne fête de Pâques. En acte 2, verset 32, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. C'est le texte de notre frère Pierre, l'apôtre Pierre. Et dans 1 Corinthiens 15, vous pouvez savoir aussi ce qu'est la bonne nouvelle. Clairement, peu de personnes pourraient et peuvent, même parmi les chrétiens, la définir rapidement, succinctement. Eh bien, nous le trouvons dans la Bible. 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, donc l'Ancien Testament. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, frères et sœurs, évidemment. Dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, ensuite à moi, l'avortant, donc l'apôtre Paul. Donc, clairement, la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout d'abord, dans ma lettre de nouvelles, voici ce que j'explique. Je vous remercie pour votre amour, pour votre belle foi, pour vos prières, pour votre fraternité. D'abord, quant à ma santé, mon taux très élevé de globules blancs descendait progressivement. J'espère que c'est encore le cas. Je ferai un contrôle d'ici 2, 3 semaines vers la normale. En général, les médecins disent, ça augmente, ça ne descend pas. Et c'est incurable. Eh bien, avec Dieu, tout est possible. Merci pour vos prières et merci à Christ. Les diverticules dans l'intestin, fini, parti, alléluia. Mais de grandes douleurs dans les articulations, les genoux, les épaules, et une très forte fatigue générale, récurrente. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de Dieu pour continuer à marcher dans ses voies et servir le Seigneur, servir les chrétiens, servir les non-croyants aussi. Donc c'est un sujet de prière important. Le point B, des hommes se lèvent, les quatre femmes bailleuses, nos trois filles et mon épouse se sont toujours levées, elles ont toujours été très engagées dans le Seigneur. Eh bien, maintenant, on peut compter sur Vincent, bien sûr, depuis longtemps, qui a 37 ans, notre gendre. Il y a Jackie, 60 ans, Jean-Louis, 58, et Christian, 59, Alexander, 34. L'équipe est très aimante. L'équipe de ces femmes et de ces hommes est très aimante, serviable, loyale, attachée à Jésus-Christ. Et le culte se fait en français, mais il se fait aussi, quand Alexander est là, en russe et en ukrainien pour les personnes d'Ukraine qui sont là. Il y a deux réunions en France, une chez Jackie à Saint-Jean et une chez Christian et Marie-France à Longwy. Je rends grâce à Dieu de ce que Evelyne, la femme de Jackie, est très ouverte à la parole de Dieu et progressivement vient avec un cœur ouvert vers Christ. En Ukraine, le point C, d'Ukraine, nous avons vu arriver quatre femmes, cinq adolescents et un bébé de 8 mois. De nombreuses aides matérielles nous viennent de la région, d'un tas de monde. Et tout le surplus part en Allemagne. Quelqu'un de notre assemblée se charge de louer une camionnette on reçoit des dons en argent, donc on peut louer une camionnette et payer le carburant et envoyer tout cela en Allemagne, là où il y a, et en Pologne, il y a des millions de réfugiés. Alors, nous n'approprions pas les dons, nous n'utilisons pas les dons pour nos besoins de famille, nos besoins du ménage et même de notre accueil dans notre ménage. Nous avons des règles absolues devant le Seigneur que nous mettons en pratique. C'est ainsi qu'on est toujours béni. Dieu le voit, Dieu le sait et tout le monde doit le savoir. Pas de magouille. Il y a une école l'après-midi dans notre salle de culte avec des adultes ukrainiens entre 12 et 18 personnes. C'est Noémie, notre fille, qui leur donne cours puisqu'elle a fait une qualification dans ce sens pour apprendre le français aux personnes étrangères. Il y a aussi l'école, la maison école, ça c'est différent, qui n'est pas dans la salle de culte, qui est dans d'autres pièces, quatre autres pièces, plus une toilette, plus une cour à l'arrière, une prairie. Cette école comptait 8 enfants et maintenant elle compte les Ukrainiens qui sont dans la maison, à part le bébé de 8 mois. Donc 9 plus 8, ça fait 17. Voilà. La maison école fonctionne tous les jours de la semaine, 7 heures par jour. À titre gratuit pour Bénédicte, Véronique et maintenant Noémie à mi-temps. Nous avons la merveilleuse providence divine pour faire tout cela. Épisodiquement, il faut savoir que il s'ajoute d'autres personnes que nous ne citons pas, par discrétion. Donc c'était le point C. Le point D, c'est que l'Église compte une association loi 1901 en France, et désormais la responsabilité est portée par Jean-Louis Mélis, Jacques Pierre et Christian Fink, et moi-même, encore jusqu'à l'année prochaine, au mois de mars. Après, c'est fini. Je démissionne de toute responsabilité juridique, légale devant l'Église. Un projet d'évangélisation publique en français et en portugais est à l'étude dans le quartier où habitent Marie-France et Christian, là où nous faisons des réunions bibliques depuis 12 ans, pas loin de la mosquée maghrébine. Et nous espérons, nous voudrions trouver, à travers les chrétiens que vous êtes, des gens qui parlent bien le portugais, qui puissent venir et qui puissent collaborer à cette manifestation publique. Il me faudrait des noms, il faudrait des téléphones, et il faudrait savoir que je demanderai à chacun de collaborer à cette mise en œuvre de l'évangélisation. Nous avons bien sûr un support, c'est Monsieur et Madame Alves de Châlons-en-Champagne. Emmanuel Alves est d'origine portugaise, et avec Christine, ils font de très beaux chants. Ils sont musiciens. Ils ont de très belles voix et nous pourrions faire en public dans cette rue, sur une petite place, un petit podium, nous pourrions faire des chants qui plaisent et nous le ferions le lendemain de la fête de Notre-Dame de Fatima, la fête qui rassemble tous les Portugais, enfin presque tous. Et ce qui a, ça serait le 14, le samedi 14 mai. Priez pour cela, c'est très important. Pour ce qui est de l'Église en Belgique, l'Église qui est sous l'ASBL, le nom, le vocable Le Rocher en Belgique, il y a un camp d'enfants au début août et nous avons besoin, bien sûr, de moniteurs, d'aidants, de chrétiens engagés, nés de nouveau, et qui savent ce que c'est que de s'occuper d'enfants, plutôt que de soi-même, plutôt que de soi-même. Et donc, l'Église a mis en vente, l'Église, l'association en Belgique, Le Rocher, a mis en vente auprès d'une immobilière le bâtiment à la frontière. Pourquoi? Pour deux motifs. c'est que le budget pour réparer tout cela était trop coûteux. Il nous aurait fallu certainement 700 000 euros. C'est Luciano Branco de la mission qui m'avait tapé ce chiffre-là, mais il est très réaliste. Et d'autre part, il y a une autre chose, c'est que pour toutes sortes de règles écologiques, mais vraiment de protection de la nature, il est interdit de loger sur place. Et donc l'accueil, le logement de personnes de passage était impossible. Et d'autre part, même un couple de concierges ou de responsables ne pouvant pas loger, on est certain que le bâtiment serait réellement visité, fracassé, abîmé, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Donc nous avons dû replier boutique et nous allons vers notre village qui est à 5 km de la frontière et où une personne de notre église donne un terrain gratuitement. Elle est prête à donner ce terrain gratuitement. Lorsqu'on aura vendu le premier bâtiment, il y aura sans doute déjà de l'argent pour commencer le projet, choisir l'architecte, etc., demander les autorisations. Et nous compterons sur la providence du Seigneur pour faire ce bâtiment d'église. J'ai du mal de la parler temple. Parce qu'un temple, en général, ça ne sert que le dimanche, parfois une réunion en semaine. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons une maison de vie, une maison conviviale, de passage, une maison de prière, donc qui sert tous les jours et qui puisse être en permanence un lieu de vie. Et donc, maison de prière, cela se dit ainsi en Russie, dans certains pays anciennement communistes. Les autorités, sans doute, ne trouveront rien à redire à ce que ce soit dans notre village et à côté de notre école, notre maison actuelle. De plus, c'était un terrain déjà viabilisé et l'argent donc du premier bâtiment servirait pour le deuxième. Au point F de cette lettre de nouvelles, les articles bibliques paraissent souvent dans des journaux à grand tirage en France, le Shopin de Longwy, qui a un grand tirage, beaucoup de lecteurs, et en Belgique, le Publiflore et le Publivire, environ 100 000 exemplaires par semaine. Mais nous, nous choisissons, j'ai choisi de faire paraître tous les 15 jours. Ça coûte de l'argent, évidemment. Mais c'est nécessaire au salut et c'est nécessaire pour que les âmes que Dieu veut appeler soient prêtes quand Jésus va revenir. Et si nous voulons hâter le jour du Seigneur, il faut bien évangéliser et utiliser des moyens. Et nous voyons que cela porte des fruits puisque sur les messages de 18 heures, il y a maintenant 5 personnes dans notre village, il y en a à peu près 5 dans les villages à côté. Et il y en a un peu partout. Alors, ces 3 messages se font en live et sont conservés, puis ensuite repassés. Nous avons trouvé la technique, repassés, remis sur le site. Et sur le site, il faut savoir que ça va en Chine, ça va dans les pays musulmans, ça va en Russie, ça va aux États-Unis, en France, et ce sont des milliers de visiteurs. Tout cela est possible grâce à votre aide. Chers amis, tout cela est possible grâce à votre amour, à votre foi. Et certainement, c'était le plan de Dieu depuis longtemps. Dieu continue son œuvre aussi à travers nous pour le Pakistan, et c'est grâce à vos dons que nous pouvons le faire. Actuellement, l'école officiellement reconnue là-bas avec le pasteur Saïd compte 105 enfants, et à cause de l'inflation, de la difficulté de l'argent, la baisse de la valeur de l'argent, la hausse du coût de la nourriture, etc., il faut quasiment 900 euros à 1 000 euros par mois pour ces enfants. De quelle manière? D'abord 50 euros pour une famille éprouvée parce que le papa est tombé dans le four où on cuit les briques. Et il a une jambe très abîmée et l'autre est complètement calcinée, elle a été coupée. Mumir. Priez pour Mumir, sa femme, ils ont 34 ans. Et un petit bambin. Pour une veuve qui a des enfants et qui est seule, et qui maintenant vient de tomber paralysée, 50 euros. 130 euros pour 3 jeunes filles consacrées, célibataires, chrétiennes, diplômées, un peu comme chez nous, nos 3 filles. C'est surprenant. Les miracles de Dieu sont très surprenants. Et c'est un grand parallèle. Et ces trois jeunes filles, de 22 à 25 ans, travaillent très bien pour le Seigneur, auprès des enfants. Et les examens ont déjà eu lieu, et il y a des enfants qui réussissent ces examens, les examens sont validés par le ministère de l'instruction publique du Pakistan. Alors, il faut à peu près 120 euros pour la location de deux locaux pour les toilettes et pour la cour. Et la cour est un mur pour être protégée des problèmes avec les agressions musulmanes éventuelles. Il faut être dans la discrétion. La deuxième chose, tous les musulmans ne sont pas agressifs, hein. Croyez bien que la majorité sont très calmes, très gentils. Mais il y a toujours des têtes chaudes. Et la deuxième chose, il faut pouvoir être à l'abri de la chaleur quand il fait 45, même plus, 45 degrés, ou qu'il pleut énormément, qu'il y a beaucoup de vent. Donc ce local coûte quand même de l'argent. Il faut à peu près 100 euros par mois pour des bibles, pour des cahiers, pour des bibles, du papier. Des bibles pour enfants coûtent 12 à 13 euros, avec les dessins et tout ça, les explications. Et pour les adultes, 8 euros. Donc on ne sait pas en acheter beaucoup, c'est ponctuel. Et il faut 550 euros à 600 euros pour la nourriture. Avant, on se serait limité à 400 euros par mois, mais c'est plus possible. Et c'est un repas par jour, chers amis. Alors que nous avons plusieurs repas par jour, c'est un repas par jour. Tout cela, chers amis, ce sont des descriptions de ce que je donne dans la lettre de nouvelles. Dans la lettre de nouvelles. Il est clair que je ne cherche à rien inventer, mais rien du tout. Je cherche à vous dire honnêtement ce que le Seigneur fait à travers nous et ce que nous faisons de bon cœur. Il est clair que nous n'osons pas nous vanter de quoi que ce soit. Il n'est pas question de se vanter. Le travail est lourd et pénible. L'engagement nous prend beaucoup et ça ne va pas tout seul. Mais priez pour cela. Priez pour cela et nous sommes heureux de voir le Seigneur qui bénit. Alors, je vais en venir au message proprement dit d'aujourd'hui. Prenons Luc chapitre 13, versets 6 à 8. Luc 13, versets 6 à 8. Oh, que j'aurais aimé connaître ce brave médecin, ce brave Luc, qui a donné tout, qui a tout abandonné son métier, ou qui l'a fait en pratique, en parallèle. Je ne sais pas. Ce brave homme qui a rencontré Paul, Pierre, Jean, et qui a donné sa vie, qui s'est consacré à Christ, qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Alors, Luc 13, versets 6 à 8. Jésus dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Le figuier représente Jérusalem, la vigne Israël, n'est-ce pas? Il vint pour y prêcher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Qu'aubleu, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le vigneron, c'est Jésus-Christ, c'est l'ouvrier du patron, du propriétaire. C'est le Fils envoyé sur terre qui représente, qui a un mandat pour faire produire le figuier, pour que Jérusalem reconnaisse le Messie et le salut en Christ, et pour que la vigne porte du fruit, donc accepte Christ et son œuvre de rédemption et le don du Saint-Esprit. Donc voilà, 3 ans. 3 ans, le vigneron dit, c'est pas brillant, pas de fruits. 3 ans de la vie de Jésus, plus 30 ans avant, au bac, c'est-à-dire sur la croix, rejeté, considéré comme un ennemi du peuple, trahi même par ses amis. Considéré, Jésus, comme ce fumier au pied de l'arbre du figuier de Jérusalem. Qu'est-ce que peut donner un bon fumier? C'est que le figuier se réveille et reprenne vie et porte du fruit. C'est le cas puisque ici, le vigneron, et c'est Christ, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Laisse-le encore cette année. Donc, Luc 13, verset 8, et je pense que la quatrième année de Jésus est une explosion de fruits, de fructification. Comment vais-je dire ça? La religion n'a pas permis, ni les autorités politiques n'ont pas permis au Messie d'être connu. La foule, dans son apathie, dans sa faiblesse, dans sa peur, dans ses compromissions, dans ses traditions et ses habitudes, la foule n'a pas reconnu le Messie. Ou si elle l'a reconnu, elle a dû se taire et plier bagage devant les autorités. Christ a tenté de révéler son Père, de révéler l'amour, et ses 3 ans d'échec, plus les 30 ans avant. En apparence, en tout cas. En apparence, c'est un échec. C'est une grande leçon pour nous, chers amis. Quand nous travaillons pour le Seigneur, il est clair que pendant très très longtemps, on ne voit pas de fruits, de résultats. Et pourtant, ce n'est pas pour cela qu'il faut abandonner. Car Dieu fait son œuvre quand il veut, à l'heure qu'il veut, par les moyens qu'il veut. Et nous sommes de simples serviteurs. Et nous devons être fidèles jusqu'au bout. Et donc, si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons dans les plus grandes, dans le règne de Christ. Donc, Christ a tenté de révéler le Père, 30 ans plus 3 ans de vie publique, semblent paraissent être des échecs. Mais la quatrième année, c'est l'année de la résurrection, du ressuscité. C'est l'année de la Pentecôte. C'est le don du Saint-Esprit, le don des langues, la manifestation de la bonne nouvelle à toutes les nations, à Jérusalem, pendant plusieurs dizaines de jours. Et l'Église de Jérusalem, qui se forme si vite, lisez Actes, chapitre 2 à 4, elle se construit extrêmement vite par des Juifs, ce sont des Juifs. C'est bien sûr, la vigne qui produit, c'est le figuier qui produit. Et cette Église s'investit à fond pour que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit puissent rester tout près des apôtres, recevoir un enseignement magistral, fondé, solide, qui prend pied sur les prophéties de l'Ancien Testament. Et pour cela, il faut qu'ils restent là. Eh bien, tous ces gens qui viennent à peine d'être convertis vendent leurs biens, pour qu'ils aient à manger, pour que tous ces gens qui sont là, leurs frères et leurs sœurs en Christ, puissent entendre la vie spirituelle sortir de la bouche des apôtres. L'enseignement des Écritures. Et regardez bien, si vous lisez Luc 24, vous voyez que Jésus ouvre l'esprit des disciples, il ouvre leur intelligence, et il leur démontre qu'il a accompli Moïse, les psaumes, les prophètes, et que toutes les Écritures rendent témoignage de lui, Jean 5, 39. Et donc, il est évident que ce travail de base, des fondations, poser les fondations, était nécessaire pour toute l'Église de Christ à travers le monde. Et cette fondation a été faite, c'est la quatrième année. Donc, comprenez bien cette parabole. Le vigneron répondit, « Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. » Il a donné sa vie, totale, complètement. Et il a été considéré comme du fumier, comme moins que rien, par tous les responsables et la foule. Et c'est lui qui donne vie. Vous voyez à quel point le sacrifice de Christ a été bénéfique à Israël et bénéfique à Jérusalem. Lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que dans tous les premiers chapitres, l'Évangile se répand puissamment dans Jérusalem, ensuite en Judée, ensuite en Samarie, ensuite en Galilée, ensuite dans les nations. C'est toute la structure progressive du récit des Actes des Apôtres, ce récit construit par sagesse et intelligence dans l'Esprit Saint par Luc. Pour nous montrer la fructification du figuier et de la vigne. Maintenant, lisons le chapitre 16, versets 19 à 31. Chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il s'agit d'un prêtre. Ce sont les couleurs de l'habit du prêtre. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Que voyons-nous? Que voyons-nous, chers amis? Lisez le reste du récit, évidemment, jusqu'au verset 31. À la fin du récit, Abraham dit ceci. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité, même si Jésus revient. Donc, Moïse, les prophètes, la loi, les psaumes, tout cela que Jésus a enseigné aux apôtres, Luc 24, c'est la base pour reconnaître la venue du Messie, pour comprendre le sens de la venue de Jésus de Nazareth, sa mort et sa résurrection. Mais que faisait le riche, ce prêtre? Ben, il ne donnait rien de la parole de Dieu, il ne donnait rien de Moïse, ni des psaumes, ni des prophètes à ce peuple, représenté par Abraham et par Lazare. Cet homme était assoiffé, il voulait connaître Dieu, il mangeait des miettes. Y en a-t-il pas aujourd'hui sur la terre qui n'ont que des miettes, chers amis, qui n'entendent à peine parler de Dieu, de la parole de Dieu? Ne leur donnez pas des miettes, chers amis. Donnez-leur toute la parole. Soyez engagés au service de la parole de Dieu. Chers amis, je vous en supplie, ne soyez pas comme le riche, sinon vous serez rejetés. Parce que vous n'êtes pas mis au service de la bonne nourriture pour ceux qui sont affamés de Dieu. Vous avez une tâche essentielle à accomplir sur terre. Ne soyez pas ce riche embourgeoisé qui se paye une religion extérieure et qui ne fait pas son boulot pour la gloire de Dieu. Les religieux n'ont pas nourri spirituellement les âmes. Tout Ézéchiel 34, lisez-le. Lisez le psaume 23, lisez le psaume 1. Tous ces passages nous montrent que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, Jérusalem aussi, devait être nourri par la Torah, par une bonne compréhension de la Bible, de l'Ancien Testament, afin d'être préparé pour la venue du Messie. Un seul l'a fait, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dû le faire, non pas à Jérusalem, parce qu'il serait fait lapider, ou crucifié aussi, il l'a fait au bord du Jourdain et se retirait dans le désert. On venait l'espionner, le surveiller. On ne l'aimait pas. Mais il a eu le toupet de préparer 11 bons serviteurs pour Jésus qui sont restés les 11 apôtres. Le 12e venant de Jérusalem et n'étant pas préparé a fait défaut ensuite. Si Jean-Baptiste a été nécessaire pour donner une bonne fondation aux 11, alors que malgré tout ils ont trahi, il a fallu le sang de Jésus et l'Esprit Saint donné par Jésus pour les construire dans la nouvelle vie, dans la vie divine de l'Évangile, il est quand même nécessaire de dire que Dieu avait posé des fondations avant, c'était les paroles d'Isaïe, les paroles de tout l'Ancien Testament. Quand Jean leur a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », maintenant qu'il croit, c'est moi que je diminue, suivez-le. La mise au service de Jean-Baptiste par Dieu pour préparer la venue de Jean-Baptiste et de Jésus nous fait penser à la mise au service que nous devons accepter dans notre vie pour que le Messie soit reconnu par les âmes que Dieu veut sauver. Nous sommes donc responsables et nous ne pouvons pas vivre comme le riche. De Luc 16, verset 19. Et nous ne pouvons pas laisser des êtres assoiffés de Dieu priver de la bonne nourriture. Luc 16, verset 20. Nous devons leur donner la bonne compréhension de l'Écriture avec amour, avec foi. Luc 16, verset 31. Si nous avons l'amour du Messie, nous devons avoir l'amour des Écritures. Si nous avons l'amour des Écritures, nous devons avoir l'amour d'apprendre comment mettre à la portée des autres la sainte parole de Dieu. Comment, en plus de l'avoir compris pour soi et de la vivre, la mettre à la portée. Tout cela s'apprend quand on aime. Tout cela s'apprend quand on veut servir le Seigneur. Le lavement des pieds n'est que l'image de quelqu'un qui met la parole de Dieu au niveau des gens, des personnes, pour qu'ils puissent la comprendre. Nous ne pouvons pas donner une parole d'évangile qui passe à 2000 mètres au-dessus de la tête des personnes. Les personnes ne sont pas des girafes. Les enfants de Dieu sont considérés comme des brebis. Mais souvent, ils ne sont encore que des agneaux. Alors les autres qui ne sont pas convertis, des petites souris. Il faut bien reconnaître qu'il faut se mettre à la hauteur des petites souris, sans avoir une idée péjorative à propos des personnes, évidemment. Alors prenons Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, aux onze apôtres, après sa résurrection, « Ô hommes sans intelligence et dans cœur élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, vous avez vu. » C'est ça le problème. Tous les membres de notre assemblée ici, dans notre église, il a fallu énormément de temps et de patience pour qu'ils aiment l'Écriture, qu'ils la comprennent. Il a fallu des dizaines d'années pour apporter ce message qui, un jour, germe et porte du fruit. Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, dont cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Donc voici la pédagogie, la stratégie de Jésus, retour aux Écritures, aux prophéties. Et dire qu'Origène, au IIe siècle, en 182-110, dit que les prophéties n'ont pas de consistance historique, elles sont allégoriques, elles n'ont pas d'importance. Et que ça fait partie de la doctrine fondamentale de l'Église catholique. Comment se peut-il qu'on en arrive là? J'ai dû l'apprendre, moi, dans ma théologie catholique, quand je suis arrivé au séminaire. Or, c'est faux. Les prophéties sont des paroles de Dieu. Elles sont authentiquement données par Dieu pour nous instruire, nous nourrir et avoir une sainte connaissance de Jésus de Nazareth, le Messie, notre Sauveur. Verset 32. Luc 24, verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors, vous voyez ici les disciples d'Emmaüs ont un choc émotionnel, sont profondément touchés. C'est une nouveauté pour eux. Leur âme, leurs sentiments sont bouleversés par ce qui est dit de Jésus, par ce qui est dit du Messie. Ça arrive souvent. Et les personnes se figurent qu'elles sont déjà converties. Or, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez bien pourquoi ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas encore convertis. Verset 37 et 38, saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un fantôme. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées se lèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, voyez, un fantôme n'a ni chair ni esprit, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, c'est les apôtres qui osent dire ça d'eux-mêmes. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel, il en prit, il mangea devant eux. Et puis après, croyez-vous qu'ils sont convertis? Qu'ils sont nés de nouveau? Chers amis, croyez-vous que quand quelqu'un vous dit, je crois en Jésus, j'ai reçu l'effusion, j'ai été bouleversé, j'ai entendu la parole de Dieu, je suis sauvé, je suis chrétien, et on le baptise. On le baptise, on le considère comme chrétien. Parfois, nous, comme responsables d'église, on est aussi aveugles que des taupes. C'est pas ça, l'expression de la conversion. Continuons à lire. Verset 44, Luc 24, 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, donc du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on entend tous ces textes, on se voit que le chemin pour la conversion est bien structuré et bien défini par Jésus. Il faut comprendre les Écritures, il faut que l'Esprit soit ouvert. L'autorité de Jésus passe par l'autorité de la parole de Dieu. Quelqu'un qui me dit qu'il croit en Jésus, qu'il croit qu'il est sauvé, qu'il est chrétien, s'il ne lit pas la parole de Dieu, qu'il ne la comprend pas, je ne peux plus accepter de tels propos. Ça ne tient pas la route d'après Jésus ici. Il est certain que si la personne veut vraiment être sauvée, il ne faut pas l'échauder, la rejeter et massacrer son âme. Il faut se mettre à son écoute et l'encourager. Ça prend du temps. La véritable autorité de Dieu se manifeste lorsque l'amour de la parole de Dieu s'inscrit dans le cœur de la personne. La véritable authentique transformation se mesure quand la parole comprise, le Saint-Esprit, vient habiter le cœur, la pensée, l'intelligence de la personne. Alors on peut dire qu'elle est convertie. Alors on peut dire qu'elle peut être baptisée après. C'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est-à-dire des enseignés. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est un mode de vie, le chrétien. On ne peut pas rester comme on est, on était avant. On ne peut pas faire n'importe quoi. On doit vivre comme Christ le demande. Et ensuite, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, on est en relation étroite avec Jésus-Christ. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, donc je lui obéis. C'est lui qui commande, puisque c'est mon roi. Tout cela fait que le converti est bien, bien caractérisé dans tous ces textes de Luc 24. L'autorité de Jésus-Christ dans la vie d'un homme dépasse ses manies religieuses, dépasse ses idées qu'il a sur Dieu. L'autorité de Jésus-Christ développe dans la personne l'amour de sa parole. L'autorité de Jésus dans la vie de quelqu'un développe un bon accueil pour l'autorité du Saint-Esprit. Le vrai Messie alors a réussi son travail. Il a confié le bien le plus précieux qui appartient au Père et au Fils dans le ciel, le don du Saint-Esprit. Dans Luc 24, verset 22. Prenons le verset 22, et puis ensuite le verset 27. Luc 24, verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc, on est en train de lire la Gazette, n'est-ce pas? Le Républicain Lorrain ou... je sais pas moi, l'avenir du Luxembourg, on est en train de faire de la dijaille, on est en train de faire du cancan, du bruitage. Mais on adhère à rien du tout. Et dans nos églises, nous devons adhérer à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans le langage de perruches qui font du bruit. Nous devons adhérer avec notre cœur, avec notre âme et notre esprit à Jésus de Nazareth, mort sur la croix et ressuscité, qui nous donne le Saint-Esprit, le bien le plus précieux du ciel. Quand Jésus donne quelque chose, il ouvre l'esprit. Il ouvre l'esprit. Avez-vous lu ce texte? Oui? Au verset 45, il leur ouvrit l'esprit. Donc l'esprit était comme une boîte fermée avant, était comme une prison. Donc la pensée n'était pas libre. Donc la pensée n'était pas capable de comprendre autre chose que ce qui tournait en rond dans sa boîte. Donc l'esprit était loin d'être libre. Le libre examen, la liberté de conscience n'existe pas avant que Dieu n'ait ouvert la boîte. Quand Dieu ouvre la boîte de notre esprit, il nous confère une saine liberté pour comprendre qui il est. Alors, lisons Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, donc en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, à la croix, le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce, donc cadeau immérité, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc le salut, le pardon, la grande richesse de l'amour de Dieu qui nous pardonne est répandue pour nous et donne une immense sagesse et une immense intelligence. Donc la boîte est ouverte. La boîte est ouverte. Sagesse et intelligence viennent de Dieu quand la boîte s'ouvre. Je vais un peu plus loin. Je ne cesse, au verset 16, Éphésiens 1, 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, de dire merci à Dieu. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc Dieu le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, donc c'est l'obéissance à Dieu, libre et consciente, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la certitude qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de tout son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Dans la boîte ouverte, l'Esprit Saint illumine et nous fait découvrir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et tout cela, tout cela, c'est le vrai cadeau de la nouvelle naissance, c'est le cadeau de la transformation. La vraie vieille créature est mise de côté, une nouvelle créature apparaît dans la vie de la personne. Par nous-mêmes, ce salut n'est pas possible. C'est un miracle de Dieu en nous. Jésus est venu pour qu'un miracle touche tous les hommes de la terre. Qu'ils vivent pleinement, en pleine conscience avec Dieu, dans le parfait amour. Et non plus avec un esprit fermé, buté, attaché aux traditions religieuses, aux moi-je, aux idées préconçues, aux peurs, aux intérêts. Jésus ouvrit leur ouvrit l'esprit et il leur fit comprendre les Écritures. Donc ce que Dieu avait déjà déposé dans la bouche des prophètes avant, et que les prophètes parfois ne comprenaient pas eux-mêmes. Mais ils avaient dû l'écrire pour nous. Dans Luc 24, versets 49 à 51, j'enverrai sur vous, cette puissance d'en haut. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire que si je l'envoie sur vous, c'est que vous ne l'avez pas. C'est que je ne l'ai pas. Je ne suis pas capable de l'acheter. Je ne suis pas capable de trouver sur terre. Ça vient d'en haut. Ça vient d'autre part, ça vient de Dieu. La vie divine, dans ma vie, vient d'en haut, vient de Dieu. La vie divine, le salut, vient de... C'est un don de Dieu. C'est pas la religion. C'est pas les habitudes qui donnent Dieu, qui donnent la vie divine. À quel point, chers amis, beaucoup de gens pratiquent une religion, sont si peu certains de ce qu'il y a après la mort, qu'ils veulent parler avec les morts pour savoir ce qui se passe derrière, ou qu'ils veulent donner des sous pour qu'on fasse des messes pour les morts, ou qu'ils font des statues pour représenter des gens qui sont morts et pour les prier. À quel point sont-ils sûrs de ce qu'il y a derrière la mort? Rien n'est certain pour eux. Ce sont des manifestations de leur fragilité et de leur manque de compréhension de l'amour divin. L'amour divin peut donner la relation avec Dieu, la relation vivante aujourd'hui. Et à partir du moment où l'amour divin est en moi, la mort ne me sépare plus de Dieu. La mort ne me sépare plus. Jean, chapitre 5, verset 23, « Celui qui garde ma parole et la met en pratique est passé de la mort à la vie et il ne passe point en jugement. » Jean, chapitre 5, verset 23. Chers amis, il est mis ceci, vous serez revêtus par une puissance d'en haut. Revêtus, pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché et ont voulu connaître le mal autant que le bien, et ont commencé à faire le mal, n'est-ce pas? Vouloir guider leur vie par eux-mêmes, leur esprit s'est refermé sur leur orgueil et ils n'ont plus connu Dieu. Leur esprit a été incapable, après coup, de connaître Dieu. Et ils se sont rendus compte qu'en ne connaissant plus Dieu, ils ne connaissaient plus grand-chose. Ils étaient nus. C'est ça le sentiment de nudité. Ils avaient perdu l'intelligence. Satan leur avait offert l'intelligence, mais c'est tout le contraire. C'est un grand menteur, c'est un grand jaloux. Quand vous allez dans des chemins où vous pensez apprendre quelque chose, alors que Dieu vous l'interdit, vous écoutez Satan. Il veut vous convaincre que vous allez trouver quelque chose qui va vous convaincre, qui va vous apporter l'intelligence. C'est faux. Satan n'offre jamais d'intelligence. Il offre la stupidité, il offre la maladie, la mort, l'ignorance. Il offre la nudité totale. Vous êtes dépouillé de vous-même, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus qu'un objet dans ses mains. Quand on est en Jésus, on est habillé, on est revêtu de la gloire de Dieu et on est estimable aux yeux de Dieu parce qu'on porte les mêmes habits que Jésus. Alors, je vais prendre des versets qui vont vous encourager, qui vous ont apporté du bonheur, je l'espère. Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Au milieu des sept chandeliers, donc des sept églises chrétiennes, sept types d'églises qui existent encore sur terre maintenant, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, donc qui avait le corps humain, une appartenance humaine, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent en fusion, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, donc sept représentants d'église. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, donc la parole de Dieu. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc nous voyons ici que Jésus, le Christ, apparaît à l'apôtre Jean vers les années 90, 90, de notre ère, vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur la poitrine. C'est la même vision qu'Ézéchiel a au chapitre 2 et 8 et 10. C'est la même vision que Daniel a au chapitre 7, 9, 10. Alors, le Christ est permanent. Le Christ est éternel. Il n'a pas existé seulement à partir du moment qu'il sort du ventre de Marie. Il a toujours existé. Il est Dieu, il est fils de Dieu. Il est rempli de gloire. S'il a pris une condition humaine, qu'il est venu dans le sein de Marie, c'est pour vivre 35 ans, 33 ans sur terre, pour donner en sacrifice son corps, son âme et son esprit, pour racheter l'humanité de ses péchés. Racheter. Et pour nous donner une nouvelle amitié avec Dieu et nous donner un nouvel esprit. Rouvrir notre boîte. Non plus l'esprit de l'homme, perdu, égaré, mais l'esprit divin de Dieu qui peut revenir dans la vie de l'homme grâce au sacrifice de Christ. Donc, revêtu de cette belle robe, oui, glorieuse, pleine de beauté, de puissance, continuons à lire. Apocalypse chapitre 3, verset 17. C'est une église qui se figure qu'elle est bien, que tout fonctionne bien, mais elle n'est nulle part en fait, parce que déjà Jésus est derrière la porte. Ils sont arrangés dans leur ronron pour être bien entre eux, et puis c'est tout. Mais Jésus n'a plus rien à dire, il est derrière la porte, il est dehors de l'église. Je n'ai jamais vu Jésus s'imposer quelque part, chers amis. Si vous l'invitez, si vous l'aimez, si vous voulez l'écouter, il viendra dans votre vie, mais autrement... Parce que tu dis, à cette église-là, je suis riche, je me suis enrichi, donc j'ai la foi, je suis chrétien, etc., j'ai été baptisé, etc., que je n'ai besoin de rien, donc je ne changerai pas. Je suis protestant, je suis catholique, je suis évangélique, il n'y a rien à changer. C'est bon comme je suis, hein. Parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, tu ne sais pas. Tu te trompes toi-même, tu te leurres. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est l'adoration, c'est l'amour de Dieu. Éprouvé par quel feu, les amis? Le feu de l'amour de Jésus-Christ, éprouvé dans son sacrifice à la croix, et reconnu par Dieu comme le meilleur des amours, par la résurrection. L'or éprouvé. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu ne sois, que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité, donc de ton péché, ne paraisse pas. Et un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, un liquide pour nettoyer les yeux qui étaient purulents, infectés. Donc, vous avez ici une image très forte des vêtements blancs, riches de Christ, riches de l'Esprit Saint. Riche dans une nouvelle vie donnée par Jésus. Chapitre 19, verset 7. Chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire à Jésus-Christ. Car les noces de l'agneau, c'est Jésus-Christ, sont venues, son épouse s'est préparée, l'Église, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, une personne consacrée à Jésus, transformée par Jésus, pratique les comportements, les actions, les paroles, les pensées de Jésus, les œuvres justes des saints. Voilà l'expression que veut dire « revêtu par la puissance d'en haut ». On reconnaît le vrai enfant de Dieu par son comportement, sa façon d'être, par son âme renouvelée en Jésus-Christ. Êtes-vous renouvelé en Jésus-Christ? Êtes-vous né de nouveau? 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. Quelqu'un vient d'essayer de me téléphoner, il faudrait qu'il le rappelle dans 2, 3 minutes, 5 minutes. Il est impossible d'être partout. 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. Je te recommande, je vais commencer au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, mais on pourrait dire femme de Dieu aussi, fuis toutes les choses du monde où les hommes s'égarent, recherche la justice, donc la sainteté, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Avez-vous confessé votre foi réellement devant des autres? Avez-vous témoigné ce que Jésus a fait dans votre vie devant d'autres personnes? Avez-vous eu la sincérité, la clarté et le courage de dire, voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie, et je crois en lui, il a changé ça, ça, et ça, et ça dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai couru après Jésus, je l'ai accepté. Parce que j'étais un pécheur, une pécheresse très grande. J'étais séparé de Dieu. Et il m'a réconcilié avec Dieu par son sang à la croix. Eh bien, c'est ça la belle confession. En présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses. Tout à l'heure, je me promenais dans la nature avec ma femme, dans un coin merveilleux, tout près de la forêt, à Aître. Naturellement, j'ai beaucoup de mal à marcher maintenant, je marche avec une canne. Et donc, et ma femme appréciait cet endroit, il était merveilleux. Moi, je le connaissais depuis longtemps, j'avais fait tous ces chemins dans les forêts, dans les prairies, à vélo, à pied, etc. Et je voulais lui montrer tout ça. Parce que peut-être qu'un jour je ne serai plus là. Il faut qu'elle les connaisse tous, pour qu'elle puisse encore le faire avec ses petits-enfants. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Quelle confession Jésus a-t-il fait devant Ponce Pilate? Ah, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Êtes-vous, aujourd'hui, étant chrétien, témoin de la vérité? C'est là que l'on voit le vrai chrétien. Êtes-vous assoiffé de vérité et là vivez-vous? Bien sûr, on est pécheur. On cafouille parfois, on se trompe, mais on a pardon. Mais on est épris de la vérité et on est témoin de la vérité. On est derrière Jésus et on marche dans ses pas. Voilà la belle confession devant Pilate. Un homme tordu qu'il a fait crucifier alors qu'il était innocent. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui seul habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Timothée 6, versets 11 à 16. Chers amis, soyez bénis. Pâques est une fête formidable. C'est la fête de la vie. Acceptez cette vie en Christ et toute chose sera nouvelle en Christ pour vous. Aucun autre chemin ne mènera à la vie éternelle et à la paix de votre âme. Dieu vous protégera de Satan, de tout égarement si vous donnez votre vie sincèrement à Jésus, si vous aimez la vérité qui est en Jésus. Jésus a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». À mercredi. Et rappelez-vous, cette lettre de nouvelles que je vous ai lue au départ, vous la recevrez par Internet bientôt. et par courrier.